Ceci est l'enregistrement d'une conférence, ou le réenregistrement plus exactement, d'une conférence que j'ai effectuée à l'Université de Nice le 24 mai 2013 à l'invitation de Madame Guelfi, une collègue de cette faculté de Nice, et je dois dire que l'accueil que j'y ai reçu a été tout à fait exceptionnel et je tiens à remercier tout le monde. Alors, comme à mon habitude, je procède à ce réenregistrement de mes conférences de manière à pouvoir dire peut-être plus de choses, encore que j'ai disposé de 30 minutes qui m'ont parfaitement convenu ce jour-là, et puis afin d'en faire profiter tout le monde. Donc l'intitulé de mon intervention était « La perte de sens des aménagements de peine ». Et j'y décrivais donc un certain nombre de thématiques qui tendaient à montrer qu'il y avait effectivement une perte de sens des aménagements de peine depuis un certain nombre d'années. Alors, comme je le disais lors de cette intervention, c'est ma marque de fabrique, beaucoup d'entre vous le savent, lorsqu'on m'invite, on prend des risques, puisque j'ai généralement un ton délibérément provocateur, j'aime bien secouer un petit peu le monde en espérant... c'est souvent un peu nécessaire d'ailleurs en France d'obtenir des résultats de cette manière et d'attirer l'attention. Alors, ce que je vais dire sera donc en partie une série d'exagérations, de petites exagérations. Parfois la vérité d'ailleurs dépasse ce que moi je serais en mesure de présenter sur un ton donc délibérément provocateur. Alors c'est vrai que nous avons eu beaucoup de réformes ces dernières années, pas depuis d'ailleurs que le présent gouvernement, et au moins on doit lui savoir gré de cela, mais en tout cas avant dans l'exécution des peines. Et d'ailleurs, sous un gouvernement de droite, j'appelle les choses par leur nom, nous avons eu à la fois un coup à droite et un coup à gauche. Un coup à droite, enfin plusieurs coups à droite d'ailleurs, avec des peines plus longues, exécutées plus sûrement, des mesures de sûreté, le fait que les récidivistes restaient plus longtemps en détention, l'attention portée d'ailleurs à juste titre, aussi au traitement de la délinquance sexuelle, à mon sens de manière inadaptée. Puis un coup à gauche, puisque évidemment tout ceci a créé, et surtout si on ajoute d'ailleurs la disparition des grâces annuelles, de la surpopulation et puis des condamnations de la France d'ailleurs par le CPT par exemple, donc met un coup à gauche avec le même gouvernement de droite, avec la loi pénitentiaire et sa CFIP et sa PSAP et sa focalisation totalement forcenée sur les aménagements de peine. Alors, j'ai d'ailleurs déjà évoqué la logique de la baignoire à nombreuses reprises pour décrire cette politique folle et j'en fais souvent part à mes étudiants. On remplit la baignoire jusqu'à la lie en ouvrant à fond les robinets. Et au lieu de réduire un peu le robinet, ce qui paraît assez raisonnable tout de même lorsque la baignoire déborde, chacun réagit de cette manière en général chez soi, eh bien non, l'on préfère au contraire élargir le goulot d'évacuation pour faire sortir plus d'eau. Alors l'eau, évidemment c'est dans la métaphore, il s'agit d'individus, mais la métaphore fonctionne bien parce qu'elle montre aussi qu'il y a une perte quand même considérable humaine, alors de liquide dans l'exemple, mais une perte humaine et de temps et d'énergie et de ressources totalement contre-productive. Bon, nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls au monde à agir de manière aussi paradoxale et idiote. Les Anglais n'ont pas agi différemment. Finalement, seul compte le discours qu'on adresse à un électorat ici. On se moque bien de savoir si on sera efficace. En ce qui concerne l'électorat français, quand même, c'est l'un des moins répressifs du monde. Et donc, c'est assez contre... ça va vraiment à l'encontre de la réalité de ce qu'est l'électorat français. Mais bon. Enfin, toujours est-il que pour mener ces politiques à fond perdu, l'on n'augmente pas les moyens. Je sais bien que les moyens ne sont pas tout, mais tout de même, il y a un moment donné où, surtout que nous avons un retard à cet égard considérable par rapport au reste de l'Europe, où il y a un moment donné où les moyens, on ne peut pas faire autrement. Et pendant ce temps-là, surtout le plus grave, c'est qu'il n'y a pas de pensée institutionnelle. Comparons d'ailleurs avec le Labour sous Tony Blair, personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration, du moins sur ce plan-là. Je sais qu'il est contesté par ailleurs, et notamment pour des choses qu'il a fait à l'international, mais lui, c'était un visionnaire en revanche. Il avait vraiment une vision qu'il a d'ailleurs mis en œuvre, c'est-à-dire qu'il était non seulement visionnaire, mais en plus il avait la force politique de porter ses projets, et notamment l'introduction de la criminologie appliquée dans l'approbation d'une part, et d'autre part le travail collaboratif, et je reviendrai bien sûr sur ces plans-là. Donc pour moi, ce qui fait défaut aussi, au moins autant, c'est l'existence d'une pensée institutionnelle et politique forte, et surtout intelligente. Donc l'exécution des peines va très mal, mais au-delà d'aller mal, elle me semble en passe de devenir également totalement absurde. Et donc j'ai délibérément décidé de présenter cette conférence, non pas sur le modèle de plan en deux parties, deux sous-parties, etc., classiquement enseigné à l'université, alors d'une part parce que c'est un modèle qui m'ennuie profondément et qui n'est plus utilisé une fois qu'on arrive dans la pratique, et qui ne convient d'ailleurs pas à ma démarche qui est en général ni juridique ni criminologique, mais surtout aussi parce que je voulais vous donner l'impression d'une liste à la Prévert de choses qui vont très mal, donc pour renforcer cet effet. Alors le premier point que je souhaiterais développer, c'est une focalisation totalement irréaliste sur les aménagements de peine. Donc les politiques de droite en 2009, de gauche actuellement, sont persuadés, et là ils sont quand même, ils vont dans la même direction, que les aménagements de peine c'est bien par nature, encore que les politiques de droite peuvent tenir par période des discours inverses. Alors récemment, par exemple, le rapport Rimbourg, puis celui de la conférence de consensus ont recommandé des libérations conditionnelles automatiques, et je crois que Mme Guelfi en a parlé au cours de la conférence. Alors ils se plaignent de l'automaticité des peines planchées, pourtant les mêmes, hein, mais ne voient pas l'absurdité de l'automaticité des libérations conditionnelles. Alors d'où vient cette idée folle que la libération conditionnelle serait la nouvelle panacée en matière d'aménagement de peine? D'abord, il y a un discours totalement mensonger, que j'entends souvent répéter, qui consiste à dire il n'y a plus assez d'aménagement de peine, la preuve, il n'y a plus assez de libération conditionnelle. Lorsqu'on tient ce genre de propos et que l'auditoire est international, ce qu'il est rarement, puisque nous ne diffusons pas beaucoup, mais bon, les étrangers, ah bon, effectivement, il n'y a pas beaucoup de conditionnels chez vous, oui, sauf que chez nous, il y a beaucoup d'autres aménagements de peine que la libération conditionnelle. Donc c'est une escroquerie que de prétendre que, parce qu'il y a baisse de l'ALC, il y a baisse des aménagements de peine. D'ailleurs, certains ont augmenté, et l'une des raisons d'ailleurs de la baisse de l'ALC, c'est aussi la tension, la concurrence qu'exerce sur elle le PSE, puisque le PSE était la panacée antérieurement vendue, j'y reviendrai. Mais secondairement, ça se fonde aussi sur une lecture totalement erronée de travaux français sur le sujet. Des travaux statistiques d'ailleurs. Alors, on part donc d'un raisonnement biaisé à la racine. D'abord la recherche de Tournier et Kensey en 2005, puis sa correction, j'allais dire ça, son amélioration par Kensey et Benahouda en 2011. Cette recherche aurait montré, nous dit-on, et répétons en boucle sans aller vérifier, que la libération conditionnelle marcherait. C'est d'ailleurs pas ce que dit Pierre Tournier, hein, il est beaucoup plus subtil que ça. Non, cette recherche n'a en rien démontré que la libération conditionnelle, en tant que telle, marche. Elle porte d'abord, première observation, sur des LC discrétionnaires, c'est-à-dire les seuls qui existent encore chez nous. Donc le contraire de ce qu'on veut nous vendre à l'heure actuelle, c'est-à-dire des LC qui sont appréciés dossier par dossier. Donc, en démontrant, en suivant deux cohortes, une cohorte sous conditionnelle, une cohorte n'ayant pas de libération conditionnelle, que les conditionnaires, ceux qui ont une conditionnelle ont de meilleurs résultats que ceux qui ne l'ont pas, on ne démontre en aucun cas que la libération conditionnelle fonctionne, puisqu'on compare tout d'abord des torchons et des serviettes, c'est-à-dire des gens qui ont la conditionnelle et des gens qui ne l'ont pas. Or les magistrats sélectionnent bien évidemment ceux qui bénéficient de la conditionnelle, d'autant plus dans un contexte où il y a d'autres aménagements de peine, lesquels sont plus restrictifs. La conditionnelle c'est le plus mou, le plus souple des aménagements de peine, donc pour en bénéficier, faut vraiment le mériter. Bon. Donc tout ce qu'ont démontré ces recherches, c'est en réalité que les magistrats choisissent parfaitement bien les gens qui, c'est d'ailleurs une très bonne nouvelle et une excellente information, c'est tout l'intérêt de ces études, que les magistrats choisissent bien les gens qu'ils placent en libération conditionnelle, et non pas que la conditionnelle marche. En plus, la deuxième recherche a corrigé pour des variables confondantes, mais parmi les variables confondantes les plus essentielles, ils n'ont pas corrigé pour l'un d'entre eux, qui est l'état du dossier. D'ailleurs, ils ne pouvaient pas, puisqu'ils analysaient cela de manière statistique sans avoir accès au dossier pris individuellement, donc ils ne pouvaient pas distinguer ceux qui avaient un capital social, un dossier bien préparé, et ceux qui n'avaient pas. Et ils ne pouvaient pas non plus, parce que ça non plus une recherche statistique ne peut pas le montrer, si ces gens-là avaient investi leur projet plus que les autres, puisque ceux qui ont échoué à l'obtention d'une conditionnelle par exemple. Or on sait très bien, les travaux là-dessus sont nombreux et appartiennent à différentes écoles en criminologie, que l'autodétermination, agency en anglais, c'est essentiel, absolument essentiel à la prévention de la récidive. Donc c'est une interprétation erronée de cette recherche, et a supposé d'ailleurs que ses recherches aient démontré que la libération conditionnelle discrétionnaire soit plus efficace que pas de libération conditionnelle du tout, ça ne démontre en aucun cas que la libération conditionnelle qui serait cette fois automatique, donc pour laquelle on n'aurait pas trié les gens, serait efficace. Hein. Donc ça ne démontre rien de ce qu'on en prétend cela démontre. Et puis surtout, donc pendant cette... je répète, il y a d'autres aménagements de peine chez nous. Hein, donc, les propos sont quand même parfaitement injustes. On aurait dû effectivement comparer des dossiers similaires, ayant d'ailleurs bénéficié d'autres aménagements de peine également, et notamment le bracelet électronique qui est monté en force ces dernières années, exerçant donc une concurrence, je le disais tout à l'heure, sur l'ALC. Et puis, bon, une ALC automatique, au prétexte que quand elle est discrétionnaire, elle marche, vous voyez, c'est totalement débile, permettez-moi l'expression, mais surtout, cette mesure, elle est quand même assez impopulaire dans l'électorat. Hein. Il y aura un fait divers, inévitablement, il y aura un pornique, il y aura un chloé, il y aura une joggeuse, ça arrive. Hein. Et à ce moment-là, ça permettra à l'opposition d'instrumentaliser, évidemment, l'événement, l'opposition actuelle, hein, et de supprimer la réforme à peine arrivée au pouvoir, une réforme qui rendrait éventuellement automatique l'ALC. Bon, je doute d'ailleurs que le présent gouvernement ait envie de faire cela, ça me surprendrait beaucoup d'un point de vue électoral, c'est contre-productif. En plus, l'exemple de la Belgique est assez éclairant à cet égard, parce que l'ALC a perdu son soutien dans l'opinion, précisément parce qu'elle est devenue automatique pour toutes les peines qui vont jusqu'à 3 ans. Donc, je sais bien qu'un grand nombre de chercheurs, ou de politiques d'ailleurs dans certains cas, ont un mépris patent envers l'électorat et l'opinion publique. Je ne dis pas qu'il faut être asservi à l'opinion publique, mais tout de même, il y a un moment donné où il faut aussi en tenir compte, hein, on rend quand même la justice, on fait des lois au nom de l'opinion publique. Enfin, en conclusion, moi je suis toujours assez stupéfaite que ce qui saute aux yeux de mes étudiants de première, de seconde année, j'ai pas d'étudiants en première année, comme par exemple pour la peine de probation, dont je ne reparlerai pas, ne saute pas aux yeux de leurs aînés. Et puis en plus, la littérature internationale, qui certes ne s'est pas beaucoup penchée sur cette question, hein, mais quand même montre que les LC automatiques, ça marche moins bien que les LC discrétionnaires. Par exemple, il y en a Kuziemko, l'économiste de l'université de Harvard, a montré dans sa thèse Gone Off Parole et dans ses publications suivantes que les LC automatiques sont plus coûteuses que les LC discrétionnaires parce qu'elles produisent plus de récidives, précisément. Hein. Bon, alors évidemment, c'est pas moi qui vais dire que les aménagements de peine ne sont pas une bonne chose. Chacun sait qui a lu mes écrits à quel point je suis partisane de ces mesures. Donc, ce que je dis, c'est qu'on doit faire en sorte que les gens s'y investissent. J'ai dit tout à l'heure, toute la littérature sur la désistance et sur d'autres écoles d'ailleurs montre le caractère fondamental de l'investissement et de l'autodétermination de la personne. Quand on lui impose quelque chose, ça ne marche pas. Qu'on doit avant tout travailler l'accompagnement de la sortie qui soit anticipée dans un aménagement de peine ou pas. Une libération conditionnelle pour tous sans les moyens de suivre les gens dans la vie une fois qu'ils sont libérés, c'est la même chose qu'une sortie sèche. Et donc si on avait une masse de gens en milieu ouvert sans augmenter les moyens de manière extrêmement significative et surtout sans changer les méthodes, j'y reviendrai, ça serait totalement inefficace. Et donc c'est précisément le point, il faut absolument suivre les probationnaires puisque nous ne le faisons pas suffisamment aujourd'hui. En somme, et pour résumer ce premier point, cette première partie du premier point, en somme, si on industrialise quelque chose qui marchait précisément parce qu'il n'était pas industriel, c'est courir à l'échec. Mais il y a pire encore. J'ai écrit il y a quelques années un article à l'AGI pénale qui vantait la procédure de l'article 723.15 du CPP, que je décrivais comme la victoire de l'artisanat sur l'industrie. Ce sont des audiences holistiques dont on connaît, grâce à la littérature sur la légitimité de la justice, toute l'importance criminologique. C'était le seul moment où la peine était expliquée, remise en contexte et l'avenir préparé. À l'époque, donc, je disais tout le bien que j'en pensais. Mais la loi pénitentiaire a rompu cet équilibre et j'allais dire toute la beauté et l'efficacité de ces mesures en élevant les seuils à 2 ans pour les primaires, 1 an pour les récidivistes. Alors certes, on me dit à juste titre qu'on en a quand même réduit l'impact dès lors que précisément les récidivistes en sont exclus et que c'est précisément plutôt eux qui ont des peines de 1 à 2 ans. Oui, mais lorsque vous avez un primaire qui est condamné à une peine de 1 à 2 ans, ça veut dire qu'il a commis des faits d'une certaine gravité, précisément. Hein. Et c'est pour cela que depuis, on a des 723.15 pour des dossiers autrement plus sérieux, plus inquiétants que précédemment. Par exemple, en région parisienne, des trafiquants de stupéfiants d'un certain niveau. Hein. Ou alors des délinquants sexuels qui ont une peine mixte, par exemple, dont la partie ferme est inférieure ou égale au seuil de 723.15. Alors les JAP sont bien embêtés. Moi, je me souviens d'un dossier, par exemple, d'un père incestueux qui avait violé sa gamine, évidemment mineure de 15 ans, pendant des années, et qui avait pris une peine mixte, d'ailleurs quand même assez faible, compte tenu de la gravité de l'infraction, mais bon, c'est un point de vue personnel, qui se retrouve en 1723-15, évidemment, il est inséré socialement, il est repentant, il fait semblant, il est gentil, tout va bien, quoi. Hein. Donc il coche toutes les petites croix, le jardin dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, c'est la loi, hein. Bien. Personnellement, je me demande quand même, est-ce qu'il est éducatif ou pertinent, pénologiquement, de prononcer une peine ferme déjà assez lourde, compte tenu de nos pratiques, alors peut-être pas lourde pour le délinquant sexuel, mais enfin dans d'autres cas, et pour la transformer aussitôt en autre chose. Est-ce qu'il est éducatif, est-ce qu'il est pertinent, pénologiquement, d'entendre désormais des présidents ou des juges de TC, tribunaux correctionnels, prononcer une peine ferme et dire à l'intéressé, vous inquiétez pas, hein, le JAP vous arrangera ça. Est-ce qu'il est éducatif, est-ce qu'il est pertinent, pénologiquement, de voir des gens venir chez le JAP, comme chez l'épicier, négocier la transformation de leur peine, oh, vous me ferez bien une petite conversion JA, oh ben non, je préférerais le bras électronique, parce que je serai chez moi, monsieur le juge. Hein. Enfin, dans le cas du jour amende, la chose est effectivement encore plus absurde. Alors, les JAP sont des gens qui aiment les aménagements de peine, mais eux-mêmes disent que là, on dépasse les bornes, quand même. Hein. Et alors, je reviens au seuil des 2 ans, non pas sous l'angle de 723-15, mais pour l'ESL, le PE, la semi-liberté, le placement extérieur et PSE. Donc là, je me focalise sur la durée. J'ai mené une recherche pendant 2 ans sur la durée maximale tolérable sous ces mesures, et clairement, les praticiens nous ont renvoyé que le fameux mythe d'un maximum de 6 mois tolérable pour ces mesures correspondait quand même à quelque chose. Au bout de 6 mois, ils récidivent pas plus, ils violent un peu plus leurs obligations, mais surtout, ils vont pas bien. Ils appellent leur SPIP trop souvent, ils font des petites violations, ils rentrent plus tard, d'un seul coup, ils partent en vrille, ils disparaissent, ils reviennent en disant « je suis désolé, mais j'ai pas pu supporter l'idée de rentrer chez moi ou d'être dormir à la maison d'arrêt ». Bon. Heureusement, les praticiens, comme toujours d'ailleurs, et là je parle des agents de probation comme des JAP, hein, sans eux, les lois absurdes seraient ce qu'elles sont, c'est-à-dire absurdes. Heureusement, c'est eux qui donnent un sens à cette absurdité. Et donc, ce qu'ils ont inventé très très vite, d'ailleurs même en anticipant sur l'entrée en vigueur de la loi, c'est d'aménager l'aménagement de peine, c'est-à-dire qu'ils rendent systématique l'octroi des réductions de peine, alors qu'avant, on avait tendance à considérer que sur une mesure sous écrou, c'était préférable de ne pas les donner, parce que la durée sur laquelle on pouvait travailler était trop courte. Maintenant, ils en donnent. Les permissions de week-end, par exemple, qui peuvent aller crescendo, on peut jouer là-dessus, on peut jouer sur l'allègement des obligations, puis surtout, on peut systématiser la LC à mi-parcours. Donc c'est eux qui ont rendu cette mesure viable, parce que sinon c'était pas possible. Bon, je parlerai même pas des CFIP et des PSAP qui, Dieu merci, ont fait pchit, pour reprendre le mot du président Chirac, grâce à l'intelligence des parquets d'ailleurs. J'ai déjà assez publié sur le sujet, mais c'est, en tout cas c'est intégré dans la problématique que je développe ici. Bon, finalement, ce qui se cache derrière, c'est un alignement sur ce qui est de le moins disant, la moindre qualité européenne et mondiale en matière d'aménagement de peine. Sans égard pour notre tradition française, qui, même si je critique beaucoup l'absence de connaissances criminologiques, a des choses à vendre et à montrer au monde, si seulement on publie en anglais, hein, on pourrait le montrer, mais par exemple l'institution du JAP, quelque chose qui fascine les étrangers quand ils en prennent connaissance, notamment les anglophones d'ailleurs, notre façon de voir le suivi, le fait qu'effectivement... On a l'idée que la mesure doit fonctionner, doit aboutir à un résultat, hein, par exemple, etc., etc. Bon. Et le fait qu'on ait aussi une diversité de mesures, que ce soit des peines en milieu ouvert ou des aménagements de peine. Et on voudrait détruire tout cela. Peine de probation, mesure unique, LC, mesure unique. Allez, c'est pas de la bonne simplification, hein, parce que Dieu sait que sur le plan technique juridique, on a des choses à simplifier. Non, on simplifie le fond alors qu'il n'en a pas besoin là-dessus. On n'a pas d'égard non plus avec ces mesures automatiques pour le contexte réel des gens. On n'a pas d'égard non plus sur l'investissement de ces gens ou pas, on essaie d'éliminer l'audience contradictoire, alors que c'est un véritable trésor, y compris criminologique, puisque ça a des vertus en termes de légitimité de la justice et corrélativement de soumission aux obligations, qui ont été bien étudiées ailleurs. Hein. Et puis surtout, sans égard sur le contenu du suivi qui va suivre. Donc c'est l'aménagement de peine pour le principe, mais sans les raisons qui font que l'aménagement de peine marche finalement. Hein. Et avec derrière cela une volonté de se débarrasser du JAP, sur laquelle je reviendrai. Dans la même logique, mais j'y passerai moins de temps, mon deuxième point de cette énumération à l'après-vert, les mesures taille unique. Alors on a eu les mesures taille unique, one size fits all, comme on dit en anglais, avec le PSE, que l'on nous a vendu à toute force ces dernières années, Ça a été à la fois les CFIP pour éjecter le JAP d'ailleurs aussi, l'APSA, bon, ça a été la suppression de places de semi-liberté sur toute PE, comme ça le JAP n'a plus le choix dans un certain nombre de ressorts. Le nombre de PSE a donc considérablement augmenté, comme nous savons tous. Les espoirs en termes de CFIP étaient d'ailleurs à l'origine d'arriver à 50 000, comme en Angleterre. Fort heureusement, nous sommes à 10 000 seulement, si j'ose dire. D'ailleurs, on estime aujourd'hui qu'on a atteint un certain plateau au-delà duquel on ne peut plus aller. Je vous rappelle que ça s'est fait aussi avec la disparition des visas domicile, la disparition des enquêtes de faisabilité, en sorte que l'idée est maintenant de prononcer des PSE sans savoir ce qui va se passer après, sans tenir compte du risque, sans tenir compte de la réalité de la situation des gens. Rappelons tout de même que le PSE ne s'applique pas de la... En tout cas, c'est ce qu'estime les JAP la plupart du temps, et quand même la plupart des CPIP aussi, ne fonctionne pas bien pour les toxicos et encore moins pour les alcooliques. D'ailleurs, dans le domaine de l'absurde, je pourrais aussi rappeler que notre pays n'essaye même pas de faire tendre les alcooliques vers l'abstinence, alors que c'est le seul moyen de régler leurs problèmes. Lisons l'article 132-45 qui est totalement pathétique de ce point de vue-là, et qui se contente de leur interdire les débits de boissons, en plus des soins, c'est vrai. Hein. Heureusement qu'on a des bons alcoologues en France, mais en tout cas, point de contrôle réel et sérieux de leur consommation d'alcool. Donc, on les abandonne totalement à leur addiction, peu importe ce qui se passe, c'est pas notre problème. Bon, mais donc ces gens-là peuvent donc aller s'alimenter à Carrefour et remplir leur caddie d'alcool, rentrer chez eux, mais respecter les heures d'assignation, donc ils sont dans les clous, il n'y a pas de souci. Et puis, du coup, ils tapent leur femme, hein, mais comme on n'a pas fait l'enquête de faisabilité, on ne sait pas que monsieur est violent, donc c'est pas grave. Donc le PSE, ça convient évidemment pas bien en cas de tension familiale, en cas de petit appartement aussi. Enfin, comment voulez-vous rester enfermé dans un tout petit appart? Pas bien en cas de violence domestique, pas bien quand on n'est pas structuré et qu'on ne sait pas gérer son temps, pas bien quand on est impulsif, etc. etc. Bref, tout ça on ne verra pas puisqu'on ne peut plus faire d'enquête sérieuse, puisqu'il paraît que ça fait perdre du temps. Alors, ensuite, à propos de temps, les délais. Troisièmement, des délais irréalistes. Ça fait des années que je mène des recherches de terrain systématique et que je fais des infidélités au droit en publiant dans des revues criminologiques. L'une de ces recherches a porté sur la culture professionnelle des JAP, spécialement d'ailleurs, je m'intéressais au point de savoir s'ils avaient le compas de la désistance, de la réinsertion donc, et elle a consisté en l'interview de 75 JAP, de 118 autres praticiens, dont un grand nombre de CPIP, des avocats, des parquetiers, des dizaines d'observations d'audience et de cap, et surtout le codage de 1300 décisions de JAP. C'est quand même une démarche donc qualitative, mais aussi mêlée de quantitatif, qui m'a permis, qui m'a exposé à une réalité que je ne pouvais que supputer antérieurement. Dans un grand nombre de ressorts, donc, et plus ils sont grands, pire est le problème. Hein. Les peines sont mises à exécution des mois. Alors on nous a parlé au cours de ce colloque d'une moyenne de 7,4 mois. Moi ce que je constate, hein, c'est que c'est parfois quand même un an, 18 mois, des années, même parfois après les faits, que les premiers entretiens se produisent. Donc parfois il se passe 18 mois par exemple, c'est assez fréquent. Hein. Même, je l'ai même vu dans des ressorts ruraux ça, hein, avant qu'une mesure ne soit mise en œuvre plus longtemps encore, et évidemment pendant ce temps-là, elle part en vrille. Donc il n'y a pas eu d'entretien, il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de conditions, elles n'ont pas été notifiées d'ailleurs les obligations dans cette hypothèse, puisque la mesure n'est pas ramenée à exécution. Et donc il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de suivi, la personne se dit « Oh, bah, génial, on m'a oublié hein. !» Mais en même temps, ces problèmes ne sont pas réglés. Donc elle part en vrille, et je vous dis, surtout quand il y a des addictions, on ne peut pas se permettre d'attendre comme ça. Donc si on est répressif, on se dit « Mais c'est scandaleux, la justice fait n'importe quoi », et si on est plutôt, j'allais dire, plus angélique, on ne peut pas s'empêcher quand même de voir qu'on abandonne la personne totalement à ses problèmes médicaux, à ses problèmes sociaux, à ses problèmes d'addiction, et ensuite on a le front de lui dire « Ah ben monsieur, vous aurez dû savoir que c'est pas bien ce que vous avez fait. Hein. » Bon. Et puis alors il arrive qu'on prononce des prolongations de SME dans ce genre d'hypothèse, donc c'est la justice, d'ailleurs je l'ai lu dans des jugements, hein, qui se dit « Oups, oh mince, il reste un petit bout de SME, oh ben ce serait peut-être bien qu'on commence à suivre monsieur, ah oui mais il reste que 2 mois, qu'est-ce qu'on fait ? Ah ben je prolonge le SME, hein. » Bon. Voilà, parce qu'on a commencé à le suivre tardivement, et bien sûr il fait des bêtises, hein. Donc pour le sanctionner, eh bien voilà ce qu'on fait. Bon, c'est possible qu'avec le SME, hein, cela dit ses prolongations, vous le savez. Alors, j'ai d'ailleurs vu récemment ici dans une juridiction dont je ne donnerai pas le nom, mais ce n'est pas une juridiction énorme, une personne condamnée à 6 SME, et un 7e qui venait d'arriver. 2 d'entre eux avaient été prononcés le même jour par le même tribunal d'ailleurs contre cette personne. L'intéressé n'avait jamais été pris en charge, aucune des mesures n'avait été exécutée, il n'y avait même pas de rapport SPIP dans le dossier. Et la justice réagissait enfin lorsque la 7e condamnation la faisait réagir, la 7e condamnation révélant évidemment que monsieur continuait à délinquer, quelle belle surprise. Bon, certes, l'intéressé était totalement responsable de ses infractions, mais enfin, la justice n'avait strictement rien fait pour l'en empêcher ou pour l'aider, c'est selon hein, l'approche qu'on en a. Il n'y avait accessoirement aucune expertise dans ce dossier, alors que divers signaux d'alerte, vous allez me dire que j'en vois partout, mais faisaient penser à une psychopathie. Bref, le néant total du traitement et du suivi. Le problème, c'est que ce type de situation, quand j'ai analysé mes 1300 décisions, et surtout quand j'ai étudié alors, environ 400 décisions portant sur des sanctions, on en voit tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je l'ai vu aussi maintes fois dans les audiences. Donc je suis au regret de dire que c'est quand même en grande partie une question de moyens, mais on va voir pas seulement. Hein. C'est en grande partie une question de moyens, côté SPIP, côté justice, côté JAP, mais il y a aussi une question de collaboration sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. En tout cas, on ne coupera pas à la question de moyens si on veut rendre aux Français la justice qu'ils méritent. Donc parce que nos suivis, en attendant, sont des coquilles vides, de fait. Et d'ailleurs, sous deux angles. Ce sont d'abord des suivis ascientifiques et ensuite des suivis lâches. Alors des suivis ascientifiques, je ne vais pas en parler trop longuement. Tout à l'heure, j'ai évoqué ma recherche sur les JAP. Je profite pour faire une petite publicité. Elle sera publiée chez l'Armatan sous le titre « Le juge de l'application des peines, 2 points, Monsieur Jourdain de la désistance ». Mais un autre ouvrage va sortir à peu près en même temps, qui s'appelle « Moderniser la probation française » et qui développera justement ce que nous pourrions faire et ce que nous ne faisons pas, les méthodes validées à l'étranger que nous ne connaissons et n'appliquons pas en France et qui, voilà, il est urgent de s'y mettre. Hein. Donc, hélas, le jury de la conférence de consensus n'a pas du tout compris les enjeux, pourtant il entendu un certain nombre de chercheurs quand même qui allaient dans ce sens-là. Le ministère de la Justice non plus, qui croit qu'on va régler nos problèmes avec une nouvelle réforme juridique et une peine unique, la peine de probation. Voilà, encore une mesure taille unique. Je soupire, que voulez-vous de tant de bêtises hein? Bon. Alors heureusement, j'ai quand même plus confiance dans le terrain, notamment l'intérêt que je constate tous les jours chez les praticiens qui sont très intéressés par les pratiques qui pourraient leur être utiles. Je m'empresse de dire qu'il ne s'agit pas de dire que les praticiens français sont mauvais, on n'en sait rien de toute façon puisqu'on ne les a jamais évalués, hein? Mais ils ont certainement des choses d'ailleurs très intéressantes eux aussi à dire au monde, et j'aimerais bien qu'on soit en mesure de le dire au monde ce qu'ils font de bien, mais qu'on puisse l'étudier, par exemple qu'on puisse avoir accès au service de probation pour faire des recherches sans que ce soit la croix et la bannière. Hein. Mais bon, cela dit, ils ont eux aussi des choses à apprendre à l'étranger et ils le savent et ils ont envie de connaître tout cela. Et moi, je vois la passion qu'ils manifestent lorsque chaque fois je fais des formations. D'ailleurs, on me demande d'en faire souvent. La passion aussi, l'occasion de la formation que j'ai organisée récemment à Reims, où il y a eu beaucoup de CPIP candidats alors qu'il fallait parler anglais. Hein. Le diplôme de criminologie appliquée à la probation que je suis en train d'élaborer avec des collègues européens sur Reims et qui intéresse déjà par avance un grand nombre de praticiens. Et puis bon, surtout, les échanges que je peux avoir avec les praticiens, même si certains ont peur, évidemment du changement. Hein. La présence de Philippe Potier à l'ENAP, d'ailleurs à cet égard, est une énorme source de satisfaction. C'est probablement la décision, la réforme, si j'ose dire, que Madame Taubira aura faite, qui aura été la plus intelligente depuis son arrivée au gouvernement. Alors sinon, les suivis sont donc ascientifiques, je ne vais donc pas développer plus, j'ai assez publié là-dessus. Ils sont aussi extrêmement lâches. Par exemple, un suivi normal en France, c'est un rendez-vous tous les 2 mois, tous les 3 mois, parfois plus. Un suivi intensif, c'est tous les mois, dans le meilleur des cas, tous les 15 jours, quand vraiment on a besoin de mettre la pression. En Angleterre, un suivi normal, c'est une fois par semaine, et un suivi intensif, c'est 4 fois par semaine. Bon, pas que avec un agent de probation, avec 3 autres intervenants. Chacun voit la personne une fois par jour, plus fait une multiplicité d'interventions. C'est du contrôle très renforcé par rapport à nous, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup plus d'aide par rapport à l'ensemble des problématiques sociales, addictives, sanitaires, etc., de logement, qui sont réglées. Donc c'est aussi du travail social actif que nous avons, nous, totalement abandonné, à la fois pour des questions de moyens, mais aussi pour des questions idéologiques, et aussi d'insertion de la probation dans la pénitentiaire, pour laquelle, c'est pas sa logique, la pénitentiaire, hein, donc, voilà, vous savez ce que je pense sur cette histoire. Bon, alors d'ailleurs ce n'est pas qu'une question de nombre de rendez-vous, c'est aussi une question de contenu, hein, donc voilà, qu'est-ce qu'on fait dans ces entretiens, hein, donc comment on aborde la personne et quel type de soutien on réalise. Bon, alors c'est quand même aussi en grande partie, là aussi, une question de moyens, question institutionnelle, je viens de l'évoquer, mais c'est quand même aussi à cause d'une culture professionnelle qui croit qu'il ne faut pas assister les gens. Hein. Quand j'ai fait ma recherche aussi sur les agents de probation, j'ai publié, alors hélas en anglais, là, principalement là-dessus, pendant 2 ans également, j'ai entendu quand même un certain nombre de reprises des agents de probation me dire que ce n'était pas leur boulot d'aider les probationnaires à régler leurs problèmes. Hein. Donc ça, c'est embêtant. Alors, à propos de culture professionnelle, parce que c'est vraiment la culture professionnelle qui est quand quand même très souvent déterminante dans ce genre d'histoire, pas que les politiques menées, hein. La culture des Japes, c'est une culture du détail, une culture judiciaire du détail. Et c'est mon cinquième point, il me semble que c'est à cultiver absolument. Pourquoi le Jap est indispensable à mon avis? Outre le fait qu'on l'a vu, la légitimité de la justice. Donc le fait, voilà une chose qu'on a enseigné au monde, hein. De plus en plus les criminologues spécialisés dans l'approbation découvrent qu'il y aurait des questions de droits de l'homme dans l'approbation. Ah tiens, il faudrait qu'on s'en occupe. Bah, nous, on a déjà abordé cette question sous l'angle processuel. L'un des droits de l'homme, c'est pas le seul, hein, c'est le procès équitable. Et on sait qu'il y a aussi des travaux en criminologie sur la légitimité de la justice, je l'ai déjà évoqué. Donc quand on croise ces différentes littératures scientifiques, on voit très bien qu'il est indispensable d'avoir, de respecter le procès équitable dans l'approbation. C'est indispensable pour que les gens se sentent respectés, pour qu'ils aient donc envie de faire les choses qu'on leur demande, même si c'est mollement, au moins ils se sentent respectés. Donc en tout cas on sait que les travaux sont des travaux sérieux, hein, scientifiquement, hein, qui montrent qu'en effet ils se soumettront mieux aux obligations s'il y a ce respect et s'il y a cette écoute. Alors, mais la seconde raison, c'est aussi que le JAP, il va vérifier des choses. C'est son travail. C'est pas le travail du SPIP, ça. Le SPIP, il fait une enquête. Bon. Mais le JAP, lui, il a besoin, c'est la culture judiciaire, il lui faut un justificatif au dossier. Pourquoi? Parce que dans un débat contradictoire, il faut mettre le dossier à disposition des parties. C'est tout bête. Il faut qu'il puisse, l'avocat, il puisse avoir le document, il faut que le parquet puisse l'avoir aussi. Donc il faut que ça figure dans le dossier. Donc ça, c'est l'aspect contradictoire. Mais c'est aussi pour que, également, les choses soient vérifiées, qu'on se contente pas de monsieur Adika. Alors, c'est vrai qu'il arrive quand même trop souvent que des CPIP, c'est pas la majorité, mais ça arrive quand même assez souvent, notamment dans les ressorts où ils sont exsangues et n'ont pas le temps, de voir des CPIP et dire « monsieur déclare avoir un emploi ». Mais un JAP ne peut rien faire de monsieur déclare avoir un emploi. Lui, il faut qu'il ait vérifié, il faut qu'il ait la justificatif, il faut qu'il ait le justificatif qui atteste que monsieur a bien un emploi. Hein. Et il faut que ce justificatif ne soit pas un faux ou un certificat de complaisance, bah, sauf à tout laisser tomber. Alors je sais bien que là, maintenant, on veut que tout le monde soit en conditionnel ou en PSE, selon les époques, et finalement, on se fiche bien de savoir si ce que disent les gens sont vrais, hein. Puisqu'on se fiche du résultat, on se fiche de savoir si les aménagements de peine vont marcher, finalement, pourvu qu'on libère une place de prison, soit. Mais enfin, c'est pas la logique déjà, pour l'instant, qui veulent que les mesures fonctionnent, et c'est d'ailleurs aussi le désir des services de probation. Hein. Donc, monsieur déclare avoir un emploi, c'est pas possible, il faut vérifier si l'entreprise existe. Il faut vérifier si ça n'est pas issu quand il y a un certificat d'embauche, que c'est pas un certificat qui est issu d'un trafic. On sait qu'en région PACA et parisienne en particulier, il y a un gros trafic, hein, de certificats d'embauche. Donc il faut vérifier si une entreprise existe. Mais souvent le CPIP va dire au JAP « Ah ben j'ai essayé d'appeler l'employeur, ça n'a pas marché ». Bon, mais c'est pas une réponse, ça, utilisable par le JAP. Ou alors de manière inadaptée, par exemple récemment dans un dossier... une avocate me montrait que la CPIP avait vérifié l'existence de la société sur Google au lieu d'aller s'adresser au registre officiel. D'ailleurs, le registre officiel portait bien la démonstration de ce que monsieur avait pour le coup un emploi d'une vraie entreprise qui avait bien la capacité d'embaucher, alors que du coup la CPIP avait conclu que l'entreprise était fictive. Donc c'était au détriment de son client. Petite parenthèse, de l'intérêt d'avoir un avocat qui fait bien son travail. Hein. Donc là aussi, débat contradictoire, droit de l'homme, voyez, chacun joue son rôle dans cette histoire. Il faut que chacun agisse en interaction. Et puis parfois, il y a des choses absurdes. Par exemple, loin de moi l'idée de m'acharner sur les SPIP ici, mais bon, ce sont juste des exemples. Hein. Par exemple, un monsieur dont l'agent de probation proposait qu'il se retourne en Guinée-Bissau, au pays dont il était effectivement un national, alors qu'il n'avait quasiment jamais vécu dans ce pays et que toute sa famille était au Portugal, où il avait été élevé. Le monsieur n'avait pas compris ce qu'on lui disait parce qu'il ne parlait que portugais et qu'on lui avait tendu un document qu'il avait signé en acceptant sa LC expulsion en Guinée-Bissau, parce que sans comprendre de quoi il s'agissait. Évidemment, il faisait confiance. Hein. Heureusement que le JAP, ayant la culture du détail, a vérifié et lu le dossier, s'est rendu compte que ce monsieur n'avait rien à faire en Guinée-Bissau et devait être envoyé plutôt au Portugal. Donc le JAP a la culture de la vérification, ça énerve évidemment parfois les SPIP d'ailleurs, hein, ça génère évidemment des incompréhensions, et moi je comprends parfaitement que les SPIP soient énervés, ils n'ont pas le temps. Et ce JAP là, il les énerve à vouloir être précis, pointu, etc. Donc chacun est dans sa culture, si vous voulez, hein. Donc si chacun, d'ailleurs, j'en reviendrai tout à l'heure, pouvait se rencontrer autour de, ben voilà pourquoi moi j'ai besoin de ça, et voilà pourquoi moi ça m'énerve, énerve, peut-être que les choses seraient plus simples. Bon, en tout cas, c'est tant mieux pour, à la fois pour la sécurité publique et pour la réinsertion, cette culture du détail, et c'est mieux pour la crédibilité de la justice. Hein. Parce que si le probationnaire sent qu'il a réussi à berner tout le monde, est-ce que c'est vraiment très intéressant? Donc, la culture judiciaire, c'est ça, et puis c'est aussi la vérification de la réalité des violations. Dans la question des droits de l'homme dans la probation, il y a aussi celle de la réalité de la violation des obligations. Mon sens, il y a une question de présomption d'innocence dans cette histoire. Hein. Par exemple, en Angleterre ou en Espagne, quand une violation est soulevée par l'agent de probation, la pense est directe en détention. Hein. Bon, or, moi par exemple, j'ai assisté récemment à une audience contradictoire où le monsieur était accusé d'avoir frappé un autre pensionnaire dans un lieu de placement extérieur. L'association n'avait pas attendu la fin de l'enquête, classique, hein, elle avait viré le monsieur, et donc il était exclu de son placement. Donc évidemment, le JAP avait été obligé de prononcer une ordonnance de suspension provisoire, et le renvoyer en prison le temps du débat contradictoire. Donc le débat contradictoire arrive, l'avocat fort heureusement avait fait son travail de manière tout à fait adaptée, il arrive avec des pièces, des témoignages, il a bien plaidé, et il a démontré que le doute était considérable dans ce dossier, que son client était sans doute innocent. D'autres termes, il y a bien une question de charge de la preuve, comme je l'ai dit depuis des années d'ailleurs dans mes ouvrages, hein, et de présomption d'innocence dans les sanctions de l'exécution des peines. Bon, fort heureusement, il y a eu ce débat, et donc l'intervention de l'avocat, et du coup la part côtière et la JAP, et je peux vous dire que c'était pas les plus tendres, hein, je les ai vu fonctionner par ailleurs. Ah bah, ils ont évidemment été convaincus par le doute soulevé par l'avocat, et ne pouvant néanmoins, en raison de l'attitude totalement inadmissible d'ailleurs, hein, de l'association, ont été obligés de le placer sous semi-liberté, en recherche d'emploi cette fois-ci. Donc là, on voit bien que chacun, comme je le disais, joue son rôle. Il y a une multiplicité d'intervenants, avec chacun sa culture professionnelle, et c'est de cette culture professionnelle et de ces rôles divers que va naître la vérité et une façon de traiter les dossiers qui est intelligente, qui est pertinente. C'est mon sixième point. La question de la collaboration entre partenaires et malheureusement le choix institutionnel dramatique qui a été fait d'éliminer cette collaboration entre acteurs. Alors, bon, c'est peut-être parce que je vais avoir 50 ans cette année, et que passé un certain âge, on a tendance à dire tout foule comme un brave dame, il n'y a plus de saison. Bon, je m'empresse de préciser que ce n'est pas du tout le genre de propos que je tiens habituellement. Par exemple, je ne fais pas partie des enseignants qui disent que l'orthographe des étudiants baisse. D'ailleurs, je viens de corriger des copies qui par ailleurs étaient pathétiques en deuxième année, mais pour laquelle l'orthographe était tout à fait correcte par rapport aux années précédentes. Bon, alors, récemment, j'ai publié un article qui s'appelle « All hands on deck, remettre de la collaboration dans l'approbation » à la JPNL du mois de mars, et j'y développe, pour ceux qui voudraient s'y reporter, cette question absolument vitale à mon sens, de la collaboration entre praticiens, parce que c'est là que réside l'essentiel de nos difficultés. Ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question de voilà, comment travaillons-nous. C'est en partie culturel, car les Français n'aiment pas vraiment travailler en équipe. C'est aussi en partie le résultat des méthodes de recrutement par concours, parce qu'on ne recherche pas, comme dans d'autres pays, des qualités personnel quand on recrute des agents de probation par exemple ou des chefs de service, mais seulement des compétences académiques. Or, dans la plupart des pays, enfin essentiellement des compétences académiques, hein, dans la plupart des pays, la capacité à travailler en équipe est une condition essentielle pour le recrutement aux divers postes de l'exécution des peines. Parce que finalement, il est absurde de croire qu'on peut traiter des problèmes aussi complexes que la prévention de la récidive lors des 6 premiers mois notamment, qui sont ultra sensibles, difficiles, de la sortie de prison, de la prévention de la récidive aussi, de gens qui ont des déficits sociaux, éducatifs, des problèmes psychologiques, des retards mentaux, des problèmes psychiatriques, des troubles du comportement, des addictions. Finalement, les 9/10 de la population délinquante et a fortiori carcérale, ceux de manière isolée ou séquencée, comme on le fait actuellement. Les SPIP ne peuvent pas tout faire, le JAP ne peut pas tout faire, Pôle emploi ne peut pas tout faire, et ce qui est certain, c'est que les trois, travaillant de manière totalement indépendante les uns des autres, sans se concerter, sans travailler ensemble, sans organiser des réunions de travail, pas pour discuter des problèmes comme on le fait avec les COMEX, mais pour discuter des dossiers pris individuellement et dire voilà, qu'est-ce qu'on va faire dans celui-là, vous pensez quoi, vous, de ça avec votre culture professionnelle à vous, qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue professionnel pour ce monsieur, quelle est la réalité du suivi qu'on peut imposer, ben voilà, moi j'ai accès à telle information, je vous la donne. Justement, on ne fait pas circuler l'information, il y a des comportements totalement dangereux de la part de praticiens, consistant à penser que l'information leur appartient. Alors là, je peux taper sur tout le monde. Déjà, à un moment donné, il était question de diffuser le B1, de le communiquer, c'est d'ailleurs fait par voie de décret, hein, aux agents de probation, par voie législative, pardon. Mais beaucoup de JAP se sont offusqués, comment donc, c'est pas eux, c'est du judiciaire, etc. Attendez, c'est pas le problème. Le problème, c'est que les gens travaillent sérieusement. Et de même, on a effectivement des agents de probation qui, de leur côté, ne mettent pas sur API un certain nombre de données qu'ils estiment n'appartenir qu'au service. Donc, tous ces comportements sont dangereux, sont irresponsables, hein, et sont vraiment, je vais être violente, mais sont infantiles. Hein. Mais surtout, ils sont dangereux. Alors, on l'a vu avec l'affaire Chloé Pornick, ce n'est absolument pas le seul élément, et l'affaire Sonex en Angleterre, c'est absolument pas le seul élément, mais c'est l'un des éléments. Dans chacun de ces dossiers, on voit en toile de fond quand même un manque de coordination, une coordination insuffisante, le fait que les gens ne se connaissent plus. Alors, je parlais tout à l'heure de Tout Foulcan, ma brave dame. Je suis pas une acharnée des CPAL, hein, mais quand même, dans les CPAL, bon, il y avait un côté qui était certainement à faire évoluer, c'était le fait que les JAP soient chefs de service. C'était vraiment pas leur place, ni leur rôle. Mais en revanche, le fait d'avoir tout le monde dans le même local, alors là oui, vraiment ça faisait sens. Et d'ailleurs, ce que nous avions à l'époque, ça permettait aux gens de se rencontrer près d'une machine à café, de déjeuner ensemble, d'apprendre à se connaître. Enfin quand même, on ne parle pas que de service là, on parle de service bien sûr, mais derrière les services il y a des individus. Et les êtres humains, ils ont besoin de se connaître pour se faire confiance. Si les gens ne communiquent par téléphone ou communiquent par API, comment voulez-vous qu'ils fassent confiance à l'autre, qu'ils sachent qui il est? La confiance ne naît que de la connaissance de l'autre. Hein. Donc c'est d'ailleurs ce que l'on fait à l'étranger. Les choses qui marchent le mieux à l'étranger sont toujours des expériences où l'on met des gens de cultures professionnelles différentes ensemble. Et ça peut inclure la police, hein. Je sais que c'est un sujet tabou, mais la police avec sa propre culture professionnelle, elle peut elle aussi apporter un plus à certaines formes de suivi. Hein. Bon, par exemple, c'est la probation intensive qui fait intervenir police, probation, justice, santé, addictologie, éducatif, logement, etc. autour des gens qui ont besoin d'un suivi plus intensif pour véritablement résoudre leurs problèmes très lourds, hein, qui entretiennent la délinquance. C'est l'expérience des One Stop Shop en Angleterre, dans le cadre de projets Pathfinders, par exemple, pour la sortie de prison, qui sont des lieux uniques où les sortants de prison probationnaires vont trouver tous les services et tous les praticiens, ce qui évite évidemment la déperdition, car aujourd'hui, en France, c'est monsieur, vous irez à Pôle emploi à telle adresse, monsieur, vous irez voir un psychiatre à telle adresse, ah bah, il y a la sécu à tel endroit, ah bah, pour votre logement, tenez, vous irez voir un tel, et l'agent de probation qui reste dans son bureau et qu'il faut aller évidemment voir également. Mais comment voulez-vous que le toxicomane qui se lève pas le matin et qui pense qu'à sa drogue, l'alcoolique qui pense qu'à ça aussi, qui demain matin aura déjà oublié ce qu'on lui a demandé, se rende à l'ensemble de ses services? Ça marche pas comme ça, hein, non. Mais même si on n'a pas envie, c'est comme ça qu'ils sont, ces gens-là, hein. Donc si c'est comme ça qu'ils sont, il faut en tenir compte, hein. Donc one stop shop, tout au même endroit, c'est la même chose dans les maisons de justice en partie, en Belgique. Et c'est surtout le cas des juridictions résolutives de problèmes aux USA, où là tout est sur place, tout le monde travaille ensemble, chacun respecte la culture professionnelle de l'autre, parce qu'on a appris à travailler ensemble sur chacun des dossiers. Il y a un juge d'ailleurs, ils ont un peu réinventé le JAP d'ailleurs, ils sont très fiers de leur truc, nous on avait ça avant, hein. Ils sont très étonnés quand on leur dit d'ailleurs. Et dans ces juridictions résolutives de problèmes, l'intelligence surtout, c'est que c'est un JAP juge correctionnel, donc il prononce la peine, il la suit. Ce qui fait qu'on n'a pas ce qui se passe en France avec l'obligation d'avoir à 723-15, c'est-à-dire un JAP qui individualise une peine qui n'a pas été individualisée lors de la première phase, qui est la phase sentencielle, donc au niveau correctionnel, qui elle fonctionne comme une usine à fabriquer des petits pois, comme l'ont dit certains Américains à propos de leur propre système pénal. Chose qui marche encore, les COSA, le cercle de responsabilité et de suivi des délinquants sexuels, d'ailleurs les plus dangereux, hein, c'est pas les plus gentils qu'ils ont, et qui fait intervenir, outre ceux que j'évoquais tout à l'heure, des citoyens. Donc ça existe au Canada et en Hollande, et ça a produit des résultats absolument spectaculaires sur la récidive, encore plus spectaculaires d'ailleurs que les juridictions résolutives de problèmes, lesquelles, elles-mêmes, ont des résultats spectaculaires aussi. C'est MAPA en Angleterre, là aussi, bon, alors évidemment, c'est pas facile de travailler ensemble, comme j'ai écrit dans mon article en Ranzandek, qui est en français, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pas toujours facile de travailler ensemble, mais c'est plus efficace, c'est moins coûteux, c'est plus rapide, c'est plus réel et sérieux, c'est plus satisfaisant professionnellement et plus satisfaisant humainement. Donc tout le monde y trouve son compte, la société, les praticiens et puis bien sûr les personnes qui sont destinataires des mesures. Mieux, il n'y a que comme ça qu'on peut assurer la sécurité publique et la réinsertion. Alors, ce que nous faisons, nous, c'est non seulement de séparer les gens et de faire qu'il n'y ait plus de culture commune, mais encore, avec de stupides querelles institutionnelles qui ont été de manière irresponsable entretenues au niveau central, de mettre des gens en compétition et en guerre, je pense au décret de 2011 et sa circulaire, que le Conseil d'État a récemment parti annuler d'ailleurs. Bon, ma recherche sur les JAP, heureusement, a montré que sur le terrain, les gens sont bien plus intelligents que ça. Je dis les gens, c'est et les JAP et les services de probation, et qu'ils parviennent encore globalement à se respecter, à s'apprécier et à communiquer au moins moins à distance. Bon, ce qu'on a fait, donc, est irresponsable, inefficace, écouté. Donc, moi, j'espère vivement que le vivier humain français aura raison de ses politiques folles. Et puis, en conclusion, pour quand même terminer sur une note cyniquement positive, il y a pire ailleurs. Il y a pire ailleurs, parce que jusqu'à présent, je décrivais l'Angleterre et les Pays-Bas comme étant un modèle mondial et en tout cas européen. Pour l'Angleterre, ça va être difficile de que je continue à tenir ces propos, parce qu'ils sont en train de torpiller leurs services de probation à l'heure actuelle. Les services de probation étatiques qui seraient désormais en charge uniquement des profils à haut risque de récidive, donc sur la base, bien sûr, des évaluations actuarielles qui existent là-bas. Et pour les segments, ce qu'on appelle en France les segments 1 et 2, ce serait confié, ce serait mis en fait en concurrence en termes de marché, hein, à la fois au secteur privé et au secteur associatif, lesquels devraient apporter la démonstration de ce qu'ils ont des résultats en termes de récidive. Alors certes, c'est intéressant que pour une fois on se mette à évaluer ce qu'on fait de manière systématique, et c'est très bien, ça fera des recherches financées pour les criminologues, mais enfin, en attendant, voilà une politique totalement délirante imposée au niveau national, en plus sans expérimentation préalable, qui ne repose d'ailleurs que sur une idéologie, le libéralisme et la privatisation, qui est brandie comme étant par essence une bonne chose, sans aucune nuance. Mais on pourrait chez nous aussi faire quelque chose de terrible, hein, si le JAP disparaît, ce qui est une possibilité, comme d'ailleurs Madame Gentilini qui intervient cet après-midi, qui intervenait l'après-midi de la conférence s'étant tenue à Nice, l'a développée pour ce qui la concerne. Donc j'espère que nous aurons la voix des praticiens et des chercheurs dont je suis pour combattre toutes ces bêtises. Et puis, peut-être une politique intelligence, si ça existe, qui comprenne les enjeux et qui ait surtout la force politique d'agir en ce sens.